Donc je suis Stéphane Denic, merci de votre présence. Que dire après Joël de Ronay? Probablement pas grand-chose, donc je vais me contenter de montrer. Et vous verrez, on ne s'est pas concerté, mais par un grand hasard, il y a plusieurs de ces propos et de ces points que je vais pouvoir illustrer. Mon métier, c'est construire, concevoir, créer des expériences utilisateurs au travers d'interfaces digitales. Je vais vous brosser un petit panorama très rapide de l'évolution de ces interfaces depuis maintenant 30 ans. Mais avant, j'aimerais savoir si, quelle est votre représentation ou votre définition de l'expérience. L'expérience, ce n'est pas juste de la cosmétique, ce n'est pas juste une esthétique réussie, même si ça ne gâche rien. C'est-à-dire que, bien entendu, la dimension esthétique, la dimension émotionnelle d'une interface contribue significativement à l'expérience, à la première impression, à l'adhésion, mais ce n'est naturellement pas la seule valeur qui définit une expérience réussie. Je suis désolé, certains titres sont tronqués. Ce que beaucoup d'auteurs définissent, c'est l'expérience, c'est en fait une succession de conversations, c'est une succession de cycles d'interactions et d'engagements qui, dans des cas, par exemple, marchands, de rapport à la marque, peuvent être modélisés comme des degrés successifs de relation à la marque, des degrés successifs de connaissance, d'intimité avec une marque, avec ses produits, avec son offre, jusqu'à un certain passage à l'acte, qui est très souvent un achat, mais qui se poursuit au-delà, dans l'usage, qui en est fait, et dans le caractère d'ambassadeur que certains adeptes de ces services ou de ces produits peuvent devenir par la suite. Donc ces différents cercles, ces différents cycles constituent ce qu'on peut appeler au sens large l'expérience vis-à-vis de la marque, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Dans cet écosystème dont parlait Joël de Ronay, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus touffu, qui nécessite des compétences technologiques, métiers, artistiques, etc., le défi qui consiste à créer des expériences digitales, on a comme mot d'ordre, comme credo, le fait de se rappeler que le mantra peut être des expériences utiles au sens pertinentes par rapport à l'usage, utilisables au sens de l'ergonomie, de la simplicité, de l'interaction, et belles au sens de l'esthétique et des valeurs véhiculées au sens de la personnalité qui sera véhiculée par ces interfaces. Le métier du design, le métier du designer, c'est de cultiver ces idées pour pouvoir nourrir son design, nourrir l'approche design. Et précisément, le design donc n'est pas juste de l'esthétique, ce n'est pas qu'une couche cosmétique, ce n'est pas du coloriage. Le design, c'est un process. Le design, c'est, même si ce n'est pas parfaitement séquentiel, c'est un ensemble de méthodologies qui conduisent à des résultats. On parle de problem solving. On est face à une problématique dans un contexte donné. Construction d'une solution. Donc le design, c'est quelque chose qui est très concret, qui est très orienté résultat. C'est une démarche de creative thinking, ce qui est de plus en plus intériorisé par les designers. C'est le brainstorming, c'est la collision des idées, c'est la confrontation empirique et itérative avec des prototypes, avec des utilisateurs. Donc, tenant compte de tous ces éléments, ce que cherchent les designers d'expérience, c'est l'excellence dans l'utilité, à savoir concevoir des objets, concevoir des interfaces, concevoir des expériences qui trouveront un usage. C'est l'excellence dans l'utilisabilité, le confort d'utilisation, la simplicité, le fait que ça soit naturel. Et puis l'excellence dans l'esthétique, qui est une part clairement significative dans la construction de l'expérience. C'est naturellement le soin des détails, c'est le focus sur la qualité, et c'est également la recherche permanente de l'identité, comment véhiculer ce concept fugitif qui est la personnalité, l'essence d'une organisation, d'une marque, d'un service. Alors, si je schématise, notre plus haute ambition, c'est de réaliser avec brio de grandes idées. Donc le design, c'est cette ambition permanente, cette recherche permanente de l'excellence. Et on parle souvent de l'effet waouh. Vous avez probablement entendu parler de la découverte face à un nouveau site, une nouvelle appli, un nouveau produit, que sais-je, et se dire, ça en jette, waouh. Je pense que le design vraiment réussi, c'est celui qui procure le second effet waouh, c'est-à-dire celui où on réalise à l'usage que finalement c'est très bien pensé. Finalement, ça me permet de faire des choses que j'imaginais même pas. Finalement, ça marche mieux que ce que j'espérais. Ce second effet waouh, c'est un peu le graal des designers. Et c'était, je pense, le propos que je voulais, sur lequel je voulais insister dans cette première partie de mon exposé. La deuxième partie de mon exposé va rejoindre beaucoup des points soulevés par Joël de Ronay, et c'est l'évolution des interfaces homme-machine. Alors, on est passé de ces ordinateurs qui étaient extrêmement encombrants, et encore, je ne vous parle pas de ceux des années 60, et d'une certaine manière, ils étaient inadaptés à l'humain, même si à l'époque, ils étaient considérés comme une augmentation des capacités de l'utilisateur. On est passé successivement donc des commandes, des interfaces en ligne de commande, à la souris, ce qu'on appelle les interfaces graphiques, qui sont ici représentées comme étant le présent, mais je pense qu'on est bien conscient que c'est déjà le passé proche. Et puis les interfaces dites naturelles, c'est-à-dire les interfaces où on utilise son corps en tant que qu'élément d'interaction, donc tout ce qui est tactile, tout ce qui est vocal, gestuel. C'est du futur proche, mais c'est évidemment du présent. On a désormais, ce ne sont plus des prototypes, des écrans souples, des interfaces organiques qui permettent de faire des écrans mous. Tout à l'heure, Joël de Ronay parlait de l'électronique moléculaire et des patchs souples. On y est réellement. L'interface gestuelle, elle a été démocratisée en un temps record. Quand Nintendo a sorti la Wii, très peu de gens imaginaient pouvoir jouer à un jeu vidéo autrement qu'avec un joystick. Et la force de cette interface gestuelle, c'est qu'elle a conquis un public qui n'était pas le public traditionnel du gaming. Le tap, c'est-à-dire le fait de toucher, de cliquer, si j'ose dire, sur un écran tactile, est devenu le nouveau clic. Il a remplacé le paradigme du clic avec un pointeur et une souris. Et tous ces terminaux, tous ces devices que l'on porte sur nous, ils sont désormais munis d'un tas de capteurs, des capteurs de pression, des capteurs de luminosité, de proximité, de mouvement, d'orientation, et collectent sans cesse donc ces data, collectent ces informations liées à l'usage. Donc, très, très probablement, la souris est moribonde. On est face à une explosion des interfaces digitales, les interfaces tactiles, gestuelles, sans contact, la reconnaissance d'objets, la réalité augmentée, les interfaces vocales se perfectionnent, se complètent, sont de plus en plus naturelles. Alors il faut rester très humble quand on fait de la prédiction, quand on se demande à quoi va ressembler l'environnement dans 5, 10, 50 ans. À titre d'exemple, j'ai quelques citations amusantes de PC Week de 1984. La souris est une belle idée, mais sa pertinence en usage professionnel est contestable. On sort quand même de 25 ans de souris en usage entreprise. La souris rend-elle l'ordinateur plus accessible, plus simple pour des cibles comme les cadres dirigeants? La réponse est non. 1983. Un test de Windows 95 en 93. Ouvrir des fenêtres sur un bureau n'est pas logique et a peu de chances de marcher dans le monde de l'entreprise. Donc l'art de la prédiction est difficile, et ce qui est vrai à un instant donné ne l'était peut-être pas quelques années plus tôt. Donc ce qu'il faut savoir, ou on va dire ce dont on essaye de se souvenir à chaque instant dans nos métiers, c'est de guider notre réflexion design par le contexte, c'est viser la simplicité, ce qui est excessivement difficile, et de penser à l'expérience, de penser à l'utilisateur, de penser à l'humain, de penser à son mode de pensée et à son comportement. En somme, rendre la technologie plus naturelle. Et cette technologie, elle est en plein boom. Les écrans haptiques permettent, par exemple, de reproduire des sensations de texture, permettent de fournir des impressions tactiles en retour à l'utilisateur. Les écrans souples dont on a parlé vont certainement receler des usages qu'on ne soupçonne pas encore. Les papiers électroniques, les écrans transparents, les interfaces gestuelles, on parlait de lip motion, ou carrément sans geste, on parlait des technos, des interfaces orientées, commandées par le cerveau. Joël de René a cité des exemples, il y en a toutes les semaines des exemples qui ne concernent plus seulement les personnes en situation de handicap, mais des situations ludiques, voire professionnelles. La réalité augmentée, les hologrammes, qui ont été popularisés par la science-fiction, mais qui sont désormais des technologies établies, opérationnelles, qui se perfectionnent, qui se démocratisent, et qui peuvent être couplées à d'autres technologies, comme par exemple les hologrammes, qui créent des sensations tactiles lorsqu'on les traverse. En résumé, sans aller à horizon 10, 20, 30 ans, les tendances actuelles qui impactent le métier du designer, c'est l'omniconnexion, c'est le fait d'être dans un bain de réseau, à part peut-être ici, d'être anytime, anywhere en connexion. C'est également le focus sur les gens, c'est-à-dire toute la dimension sociale qui est désormais prépondérante, plus que, on va dire, l'activité sur les fichiers comme dans l'ancien paradigme bureautique. C'est naturellement l'explosion des terminaux, et puis c'est le déport des data dans le cloud, et non plus seulement en local. Donc le designer, il a une boîte à outils, il a une toolbox pour toutes ces interfaces naturelles, les NUI, naturellement, les interfaces tactiles, les interfaces gestuelles, les interfaces vocales, et une interface n'est pas adaptée dans l'absolu. Elle doit être penser et proposer en fonction du contexte. C'est énormément de métiers, énormément de compétences. Design d'interaction, ergonomie, design visuel, développement technologique d'interface. L'écosystème des métiers s'accroît. Les métiers du digital dans 10 ans seront peut-être très différents de ceux qu'on avait il y a 10 ans. Beaucoup d'auteurs qualifient ce monde que Joël de René qualifiait de symbiotique, le qualifient d'ubimédia, c'est-à-dire du digital ubiquitaire, grâce à une infrastructure qui permet désormais une connexion à grande échelle dans les villes, une connexion à l'échelle locale dans les bâtiments, dans les maisons, et puis rendre le réel cliquable, rendre le réel interactif, par exemple les vitrines interactives, et l'humain qui lui-même devient interactif. Le réel, il est capté, il est mesuré, il est analysé par une myriade de senseurs, par exemple le bâtiment intelligent qui mesure tout un tas de data, et on peut imaginer donc que le monde est truffé de capteurs. L'informatique est ubiquitaire, elle est de plus en plus invisible pour ses utilisateurs, et nécessite toujours plus de métiers pour la concevoir. Je vous remercie.
voulais vous demander, en fait, parce qu'en écoutant votre présentation, j'ai pas retrouvé quelque chose que j'avais trouvé dans le livre de Sylvie Domal sur le design d'expérience utilisateur, qui plaçait vraiment au centre l'utilisateur dans la création d'une expérience. Et de ce que j'ai entendu, j'ai eu l'impression que finalement, on proposait une expérience aux utilisateurs sans vraiment complètement oublier et vraiment, en tout cas, ce que j'ai compris de l'expérience UX, enfin de l'UX design, c'était vraiment d'oublier tout ce qu'on sait sur les choses et de repartir de zéro et vraiment de partir de l'utilisateur pour créer une expérience. Donc je voulais savoir si vous pensez ça également ou si vous aviez une autre vision de la chose.
Je pense que le bon design, c'est la rencontre. C'est la rencontre entre des personnalités qui sont des designers et puis les métiers. Ils peuvent être très 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 vastes, hein. Par exemple des scénographes, des sémiologues, des producteurs de contenu, donc tous les métiers de la conception. Et ce que vous dites sur effectivement comment est-ce qu'on va analyser l'être humain, analyser l'utilisateur, en essayant d'avoir le moins d'idées préconçues, de biais, de parti pris, mais sans pour autant renier des convictions. Le designer, c'est pas juste une éponge malléable ou une girouette au gré des vents. Il doit insuffler sa vision, mais il doit la confronter ou il doit chercher des sources d'inspiration précisément dans les études utilisateurs. Donc ce n'est pas un monde manichéen où on va juste observer l'utilisateur comme un hamster en cage et l'idée va venir. Je pense que c'est vraiment la confrontation de ces personnalités, de ces observations. C'est quelque part un système design et non pas, non pas un design ponctuel.
Merci. Mais en agissant de cette manière-là, vous ne pensez pas qu'on part malgré tout avec ces idées préconçues de par le fait qu'on insuffle sa propre vision sur les choses, l'interprétation par exemple des tests utilisateurs Elle peut mener à quelque chose qui pourrait être vraiment différent des attentes des utilisateurs de par notre propre vision.
C'est parfaitement vrai. Il y a une étude qui a montré, par exemple, pour un même site web qui avait été testé par des équipes différentes, que les résultats de tests utilisateurs par ces différentes équipes indépendantes ne remontaient pas du tout les mêmes observations et les mêmes conclusions. Donc, effectivement, on est dans un métier qui relève de, non pas de la science exacte, mais d'une science humaine. Et je pense que la réponse à ça, c'est chacun apportera son biais, introduira son biais, mais en ayant plusieurs paires d'oreilles et paires d'yeux, on introduit davantage d'objectivité dans cette observation.